Bon Vilain vous présente ces nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Des histoires. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, ça va être une émission un peu spéciale. Voilà, ça fait un bout de temps que je vous raconte des histoires écrites par les autres, qui écrivent chacun dans leur coin, que je découvre ou dans des livres ou sur le net et que j'ai envie de vous raconter. Eh bien aujourd'hui, ça va être une émission un peu mégalo, parce que les textes que je vais vous lire sont des textes à moi, écrits par moi. Voilà, c'est donc des vilaines histoires de Jean Vilain. Et bien sûr, étant auteur, il est normal que le premier texte ait pour titre « L'auteur ». Tout ce que je vais vous dire sur l'auteur étant valable pour n'importe quel créateur, vous pouvez, si vous le désirez, mettre comédien, peintre, musicien, cinéaste, etc., à la place du mot « auteur ». Et peinture, musique, image ou tout ce que vous voulez à la place d'écriture. Bon, ceci étant dit, revenons à notre sujet, l'auteur. Le but de cette chronique est d'aider ceux qui se laisseraient tenter à critiquer un auteur à le faire sans tomber dans les travers qui caractérisent généralement ce genre d'intervention. Tout d'abord, il faut savoir que l'auteur, comme tout créateur, est un être fragile, à la sensibilité extrême, qui éprouve le besoin irrésistible de s'exprimer par le moyen de l'écriture. Il y a plusieurs sortes d'auteurs. D'abord, l'auteur honteux, qui fait ses textes dans son coin, qui les entasse dans un tiroir quelconque et n'en parle jamais à personne. Oh, il est évident que ce n'est pas cette catégorie d'auteur qui fait l'objet de cette étude. À vrai dire, je ne vois même pas pourquoi j'en parle. L'auteur que j'oserais qualifier d'envoi de développement. Oui, à cette catégorie d'auteur appartient le jeune auteur qui a beaucoup lu et qui se dit « Ah, pourquoi pas moi ?» Il écrit un premier texte, puis un deuxième. Il se trouve littéralement génial et il les fait lire à sa copine Germaine qui, bien sûr, n'ose pas dire le contraire tout en pensant qu'elle ferait mieux de renouer avec son ex qui, lui, avait des projets sérieux puisqu'il se préparait à entrer dans la fonction publique. Un poste sûr et, a priori, à l'abri du chômage. Il y a aussi l'auteur en voie de développement qui a ceci de particulier qu'il peut soit rejoindre la catégorie des auteurs honteux, soit poursuivre son effort et rejoindre le rang de la catégorie auteur en voie de reconnaissance, qui, et il faut bien le reconnaître, est la plus nombreuse. Il s'agit d'une catégorie d'auteurs composée d'individus qui s'échinent sur leur clavier depuis un certain nombre d'années. Leurs écrits, après la période inévitable de l'anonymat complet, trouvent un écho faible mais favorable, non seulement dans un cercle d'intimes, mais, et ceci en particulier grâce à Internet, touche un nombre de lecteurs qui peut atteindre quelques centaines. L'auteur en voie de reconnaissance peut avoir publié, soit compte d'auteur, soit avoir été publié par une petite maison d'édition totalement inconnue. Mais, bien sûr, de cette catégorie d'auteurs, nous ne parlerons, puisque je ne vois pas un auteur publiant des dizaines de milliers d'exemplaires vous demander des avis sur son texte. Et même si vous aviez l'outrecuidance de les lui donner, il n'en aurait strictement rien à battre, puisque lui, ce qu'il vise, c'est le Goncourt, et pas vos compliments ou votre critique à la con. Avant de vous lancer à faire la moindre critique à un auteur, ne perdez jamais de vue que c'est un créateur, et que comme tel, consciemment ou non, il s'assimile au patron des créateurs. Dieu ! N'en prenez comme exemple que Jacques de Broncard, dans la chanson « Je suis comédien », qui dit « Je suis roi, je suis Dieu, mieux que ça, je suis comédien ». Ah oui, mais alors j'entends déjà vos réflexions. Quel égo cet auteur ! Eh bien non, l'auteur n'a pas d'égo. Il n'a que des confrères qui ne lui viennent même pas à la cheville et qui, eux, ne se prennent pas pour de la merde. Il faut bien vous rendre compte que s'il est acceptable de lui faire remarquer poliment qu'il n'y a pas de S à la fin de chevaux, il n'en va pas de même en ce qui concerne ce que vous appelez pompeusement la grammaire, la syntaxe et que sais-je encore. Et que vous, ce que vous, pauvres ignares universitaires que vous êtes, si toutefois vous l'êtes, considérez comme des fautes, des erreurs, c'est son style. Mais qu'est-ce que vous voudriez à la fin ? Qu'il écrive comme Proust, comme Lamartine, comme Hugo. Vous ne vous rendez pas compte que lui, l'auteur, il a mis des années à se débarrasser de ses modèles, qu'il a noirci des pages et des pages dont on lui dit « Oh, ça me fait penser à machin !» Mais il n'en a rien à foutre de machin, l'auteur. Ce qu'il veut, c'est être lui. Que ce soit lui qu'on loue, et même mieux, hein, qu'on achète. J'en entends déjà, là, qui pensent « Oh ouais, bah dans ces conditions, on n'a qu'à parler entre auteurs !» Mais vous savez bien que c'est impossible. Avez-vous déjà laissé traîner vos oreilles au cours du pot qui suit la première une première représentation de théâtre ? Là, moi, je prends cet exemple parce que j'ai jamais été dans une réunion d'écrivains. Mais je suppose que c'est la même chose pareil. Hein. Alors, tu l'as trouvé comment ? Oh, bah moi, très bien. Hein. Et moi, tu m'as trouvé bien ? Ah ouais, et c'est là l'horreur. Parce que si l'autre, il a le malheur de répondre... « Oh, ben, je t'ai trouvé bien, hein, bien mieux que la dernière fois. » Ça suppose que la dernière fois, t'étais à chier. Et s'il te répond « Oh, ben, pas terrible. » Ben, il est sûr de se faire un ennemi de 10 ans qui ne manquera pas de raconter partout les plus ignobles choses sur son compte. Conclusion, il n'y a pas moyen de parler entre gens du métier. Non. Non, il a besoin de vous, l'auteur. Il a besoin que vous lui disiez combien il est bien. C'est vrai, quoi. Soyez honnête. C'est tout ce qu'il demande.
Thank you.
des choses dans la vie qui me préoccupe, c'est pas seulement de faire des choses, c'est aussi de rien faire. Bah oui, je suis un feignant, et c'est quand on fait rien que finalement on est le mieux capable d'inventer les choses qu'on va faire après. Donc voici un texte qui s'appelle « Le rien faire ». Les gens, ils partent sans savoir. J'en entends plein qui, quand tu leur demandes « qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ?» Eh ben, ils te répondent « rien ». Et si tu fais le bilan, ils ont fait un tas de trucs. Oh, ils n'en sont pas forcément conscients, hein, ils l'ont pas fait exprès. Ça se fait comme ça, malgré eux, la force de l'habitude, quoi. Oh, bien sûr, hein, je parle pas là des forcenés, de ceux qui avouent « Oh, bah moi, je peux pas rester sans rien faire, faut que je m'occupe !» Non, non, je parle de ceux qui prétendent que rien faire, c'est facile, qui croient que rien faire ne demande aucun effort. En réalité, ne rien faire demande une attention de tous les instants. Une vigilance, une volonté constante, une lutte obstinée contre les principes et le sentiment de culpabilité que l'on nous a occulté dès notre tendre enfance. On se laisse trop facilement aller à faire quelque chose. Et quand on commence, on ne peut jamais savoir où ça va finir. Vous ne croyez pas? Eh ben, je démontre. T'es là, dans ta cuisine, devant ton assiette vide à la fin du repas. Tu viens de te servir un dernier verre de vin en guise de dessert, d'allumer une cigarette. Tu rivasses gentiment en regardant le ciel. Il fait beau, t'as envie de rien foutre. La vie est belle, quoi. Machinalement, tu ramasses une miette de pain qui traîne malencontreusement sous tes doigts. Du coup, sans réfléchir, tu te lèves, tu débarrasses la table de son assiette, tu fais la vaisselle, tu nettoies la table. Ah, c'est fait. Tu te rassois pour savourer ton verre de vin. Et en laissant bêtement traîner ton regard, tu remarques que la table que tu viens de nettoyer est vachement plus propre que les chaises qui l'entourent. Du coup, tu nettoies les chaises parce que ça jure, hein, un truc pareil. Et quand tu te rassois enfin, c'est fou ce que les murs se font dégueulasses à côté de la table et des chaises. Alors tu te lances dans un ménage général de la cuisine. Cuisinière, frigo, sol et carrelage, plafond, mur, et j'en passe, c'est des meilleurs. Seulement là, c'est l'horreur. Qu'est-ce que la peinture du salon, qui est attenant à la cuisine, paraît jaunasse, alors qu'au départ il était blanc. Bref, de fil en aiguille, quand arrive l'hiver, t'en es à envisager de refaire la façade dès que le printemps sera venu et la toiture en été. Résultat des courses, comme t'as pas de pognon, t'es obligé de te prendre un emprunt sur 10 ans, ce qui signifie en clair au moins 2 ans de boulot supplémentaire rien que pour en payer les intérêts. Non, personnellement... Je m'arrange toujours pour ne pas passer 2 heures à faire un truc qui en demande une. Le tout, c'est de faire ce qu'il faut faire consciencieusement, pour tout, y compris le rien faire. Vous avez décidé de bosser? Alors allez-y vite et bien. Mais si vous avez décidé de rien faire, je vous en prie, mettez-y la même conviction, la même attention. Oh, ça ne vous empêche pas de rouler une cigarette si vous en avez vraiment envie, voire même de vous lever pour vous servir un verre si vous êtes tout seul à la maison. Mais n'allez pas tomber dans le piège. Je vous assure, rien faire, c'est tout un boulot. Depuis quelques années, on a des choses formidables, entre autres le portable. Enfin, le portable, on ne sait même plus de quoi on cause quand on dit ça. On ne sait plus si on parle d'un ordinateur, d'un téléphone. Moi, quand j'ai écrit ce texte, c'était à propos du téléphone. C'est un texte qui date de quelques années. Et c'est vrai que ça m'avait étonné, le téléphone portable. Mais vous allez voir pourquoi. Ce texte s'appelle « Considération sur le portable ». Enfin, quand je dis portable, alors que l'appellation réelle de cet engin est le téléphone cellulaire. Alors vous, je sais pas, mais moi, cellulaire m'évoque un manque de liberté évident, hein. Je dirais donc portable, et il ferait beau voir qu'on veuille m'en empêcher. Cela dit, pour certains, ce truc n'est qu'une laisse de plus, hein. Je n'en veux pour exemple que ce pauvre employé d'une entreprise quelconque que je voyais l'autre midi dans un bar où je vais de temps en temps boire un coup. Le pauvre venait à peine de commander le steak frites qui constituait son repas d'honnête travailleur, que l'engin en question s'est mis à sonner. C'était manifestement l'employeur du dit employé qui s'informait de l'avancée des ventes du jour. Le temps de se justifier, le pauvre travailleur se saisit du couteau posé sur la droite de son assiette et se roit à l'attaque du morceau de carne qu'il narguait depuis 5 minutes en refroidissant. Il avait à peine et avec peine réussi à en détacher une bouchée que son portable émit de nouveau la musique aigrelette et désagréable qui lui servait de sonnerie. Je crus détecter une lueur d'agacement dans le regard du pauvre gars, qui manifestement aurait préféré faire un repas tranquille plutôt que de répondre au « T'es où ?» qui remplace le traditionnel « Allô ». Ce devait être sa femme. Étant donné le ton peu aimable sur lequel il a répondu et la façon dont il a abrégé la conversation par un « c'est ça, à ce soir », cela ne laissait aucun doute. Je ne vais pas tout vous conter en détail, mais simplement vous dire que la chose a encore émis une bonne demi-douzaine d'appels, auquel il répondit plus ou moins aimablement, selon son interlocuteur, avant de consulter sa montre et de se lever précipitamment en laissant son assiette à moitié pleine et de se diriger en courant vers sa voiture après avoir réglé la note. Vous me direz, un portable, on peut l'éteindre. Oui, certes, mais dans ce cas, pourquoi en avoir un ? Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais avec le portable, si je suis en retard à un rendez-vous avec ma petite amie, je peux la prévenir. Ben oui, mais le problème, c'est qu'elle va vous répondre, tu me prends pour une conne ? Je vois bien que t'es en retard. Alors qu'avant, avant le portable, il suffisait d'arriver en retard, mais avec un bouquet à la main pour être pardonné, hein. C'est vrai que le portable a des côtés pratiques. Personnellement, si cet engin avait existé à l'époque où je faisais des tournées théâtrales, j'aurais pas été obligé de me balader en permanence avec un bon kilo de pièces de 5 francs qui me servaient à alimenter les cabines téléphoniques. Mais la légende qui dit qu'on est bien content d'avoir un portable lorsqu'on tombe en panne sur le bord de la route, eh bien, elle est archi fausse. Il faut bien vous dire que si vous tombez en panne, c'est que c'est pas votre jour de chance. Et que comme un malheur n'arrive jamais seul, c'est bien le diable si votre portable ne va pas tomber en panne de batterie. Et que si par hasard vous l'aviez justement rechargé la veille, il ne vous sera guère utile. Puisque la façon dont sont organisés les services d'urgence le dimanche, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on tombe toujours en panne le dimanche ou un jour férié quelconque. Et ben, ce système fera que vous devrez rappeler une bonne vingtaine de fois le standard avant d'obtenir l'interlocuteur adéquat. Et entre-temps, vous aurez eu l'avantage d'entendre l'intégrale des quatre saisons un nombre incalculable de fois, à moins que ce soit la lettre Élise. Mais toujours est-il qu'au moment où vous arriverez enfin à vos fins, votre appareil affichera « batterie faible » avant de s'éteindre définitivement. Ah, n'allez pas me dire que vous faites des économies grâce à votre portable. Certes, il permet l'échange suivant. Allô, chérie ?
Oui, t'es où ?
Ben, je suis au supermarché, là, devant le rayon des nouilles. Je prends celle à 5 œufs ou celle à 7 ?
Oh, ben, prends les moins chères. T'es sûr ?
Ah, ben oui, elle est sûre. Parce qu'avec votre connerie, là, vous allez dépasser votre forfait et que la note va être drôlement salée, hein. Non, franchement, à ma connaissance, les seuls à tirer un avantage quelconque du portable sont les avocats. Une étude très sérieuse prouve que depuis l'invention de cet engin, le nombre d'adultères a considérablement augmenté. Le portable, d'après cette étude, vient en deuxième position après Internet. Et que par conséquent, le nombre de divorces a considérablement augmenté lui aussi. Non, mais moi je serai avocat. Je prendrai des actions chez Bouygues, chez Orange, chez SFR, pour gagner sur les deux tableaux, avant et après le divorce. Maintenant, si votre femme a un portable, n'en déduisez pas forcément qu'elle a un amant. Elle peut très bien en avoir deux. Le plus grand avantage du portable, à mon sens, c'est que depuis que j'en ai un, je me fais plus remarquer dans la rue. C'est que, voyez-vous, j'avais une légère tendance à parler tout seul. Et avant le portable, quand ça m'arrivait, et ça m'arrive souvent, tout le monde me regardait de travers. Et maintenant, tout le monde parle tout seul dans la rue. Et moi, je passe inaperçu. Vive le portable ! Vous en avez marre ? Eh bien, moi aussi. Alors j'ai écrit un texte qui s'appelle « J'en ai marre ». J'en ai marre. J'en ai marre des étiquettes qui culpabilisent. Mais j'en ai marre qu'on affiche sur chaque paquet de cigarettes « Fumer tue, fumer provoque le cancer, fumer risque de provoquer l'impuissance ». Leur dernière trouvaille, c'était d'inscrire le même genre de message culpabilisateur sur les étiquettes de bouteilles de vin. Si ça continue, on va même plus pouvoir boire un coup sans se sentir coupable. C'est vrai, quoi. Moi, à force, je me sens coupable de tout. Coupable quand je prends le volant, coupable de fumer, coupable de boire. Je vais bientôt me sentir coupable de manger. Car manger, hein, ça fait risquer le cholestérol, le diabète, et puis j'en passe, hein. Non mais imaginez un peu, sur votre paquet de riz ou sur votre plaquette de chocolat, des étiquettes qui proclameraient « Consommer ce produit risque de provoquer la constipation ». Bah, imaginez une seconde, une étiquette sous votre robinet de douche. « Se laver provoque la raréfaction de l'eau potable à la surface de la planète ». Ou alors celle qui sera placée à l'entrée de votre pharmacie. « Vous soignez, creuse le trou de la sécu ». Non mais, j'en ai marre. Je sais bien que c'est pour prendre soin de ma santé, mais dans ce cas, pourquoi y a-t-il pas des étiquettes me disant « Le travail est dangereux » alors que cette activité humaine provoque nombre d'accidents et de décès coûteux, et qu'on nous oblige à travailler de plus en plus longtemps. Mais pourquoi j'en trouve pas d'étiquettes qui me préviennent que vos impôts permettent, entre autres, de financer l'achat et la production d'armes de guerre, hein, et qui, elles, provoqueront plus de décès que la consommation de pinard, hein. Alors, se soucie-t-on de moi lorsqu'on omet de me mettre en garde contre la consommation abusive des émissions de TF1 provoque un ramollissement du cerveau? Non, hein? Bah, on devrait aussi me prévenir que acheter un paquet d'actions va provoquer le licenciement de milliers de travailleurs, hein? C'est bizarre, hein? Mais il n'y a pas d'étiquette disant consommer tant et plus met la planète en grave danger d'épuisement des ressources naturelles. Ou bien consommer ce tas de saloperies provoque des milliers de cancers. Non, j'en ai pas trouvé qui m'informait que ce système économique maintient dans la misère la plus grande partie de la planète. Il se soucie comme d'une guingue du bien-être de millions, de milliards d'individus, y compris toi. Pour bien faire, les bulletins de vote devraient porter la mention « Confler le sort d'une nation, voire du monde à un malade mégalomane capable de s'en lancer dans la guerre au moindre prétexte est suicidaire. » Ou alors méfiez-vous de la promesse d'un homme politique. Ou plus généralement, il faudrait étiqueter partout « Il est dangereux de vivre en égoïste ». C'est vrai, quoi. Le monde pourrait être beau si vous vous y mettiez tous. Ça devrait être une étiquette. Et là, oui, j'aurais l'impression qu'on s'occupe de ma santé. Ah ça nous attend tous, vieillir. Et moi, je suis dans une période maintenant où je me rencontre. Vieillir, c'est pas n'importe quoi, c'est pourquoi j'ai écrit ce texte qui s'appelle très originalement « Vieillir ». Novembre. Le ciel est lourd et gris. Les feuilles perdent leurs arbres. Les chrysanthèmes aux devantures des fleuristes se font le malin plaisir de nous rappeler combien nous sommes mortels. Les guirlandes de Noël que les ouvriers municipaux installent en vue de l'événement sont éteintes, tristes à pleurer. Les rares passants courent sous la pluie. Je glisse sur une merde de chien et dans quelques mois, je serai officiellement et un vieux. Tout va bien. Quand je pense qu'il y en a qui ont peur de vieillir, moi je serais plutôt content. Ça a plein d'avantages, la vieillesse. Enfin, surtout quand on est jeune. Enfin, je veux dire, jeune vieillard. Mon corps n'est pas encore dégradé par les ans et je connais beaucoup de petits gars de l'Uro qui ont bien plus de bide, la queue moins raide et bien moins de cheveux que moi. Tiens, en voilà un des privilèges de la vieillesse. Je peux me faire pousser les cheveux au point de ressembler à un Sioux sur le sentier de la guerre sans me faire traiter de jeune chevelu. Et je joue encore assez souvent, au sens indien du terme. Je vais avoir droit à la carte vermeille et la proportion de femmes plus jeunes que moi augmente chaque année. C'est pas réconfortant, ça, hein? Avec l'âge, on acquiert aussi certaines certitudes. Par exemple, la certitude que la petite douleur que vous éprouvez de temps en temps au niveau de l'épaule gauche ne va pas aller en s'améliorant, pas plus que celle qui vous chatouille les lombaires de temps à autre. Mais bon, moi qui doutais de tout, je suis maintenant à peu près sûr de n'en savoir guère plus. Je dis ça, mais en fait, j'ai beaucoup appris. Oh, bien sûr, aucune certitude en ce qui concerne les grandes interrogations. Je suis, par exemple, assez dubitatif sur l'existence de Dieu. Mais au fond, je m'en fous. Je n'ai encore jamais tué, jamais violé, exploité personne. J'ai menti pour pas faire de la peine ou parce que je pensais que c'était mieux comme ça. J'ai fait quelques conneries, mais qui n'en fait pas, hein. Et puis, je connais mon caté sur le bout des doigts. J'ai été enfant de cœur. Il n'y a qu'à faire une petite répète. Alors, le coup de celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, c'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Hein. Ah, je sais quoi plaider quand j'arriverai là-haut. Enfin, s'il y a là-haut. Mais c'est fou ce qu'on apprend en vieillissant. Quand j'étais jeune, je pensais que le socialisme visait le bonheur des peuples. Et maintenant, je sais de manière certaine que l'on peut se dire socialiste et défendre corps et biens l'économie de marché. Oh, bien sûr, statistiquement, je n'ai plus qu'une quinzaine d'années à vivre. Ah, et c'est pas la meilleure nouvelle que j'ai appris. Mais avec un peu de chance, je pourrais peut-être avoir un peu de rab. Et puis, il y en a plein qui n'ont pas la chance d'y arriver avec cette putain de retraite, hein. Tiens, regarde, un mec comme Jésus, 33 ans. Oh, si c'est pas malheureux, hein. C'est vrai, quoi. La vieillesse, c'est pas la seule façon de mourir. J'ai même, en fait, beaucoup moins de risques maintenant. Je ne fonce plus comme un dingue à travers de la route une paire de patins à roulettes au pied. Ma deux chevaux, elle me traîne à une allure de sénateur, même quand je fais rugir le moteur en effectuant le même double débrayage que je faisais subir à la R8 Gordini de mes 25 ans. Et puis, y a moins d'arbres sur le bord des routes, y a plus de flics, j'essaye plus d'épater mes petites amies en sautant du deuxième étage. Enfin, ça, en fait, j'ai jamais essayé, mais j'aurais pu, hein. Alors que maintenant, j'ai plus aucun risque. Je regarde à droite et à gauche avant de traverser, même dans les sens uniques. J'évite de fréquenter des gens peu recommandables, enfin, sauf mes amis. Je conduis très peu souvent en état d'ivresse, Et en tout cas, il m'arrive plus jamais d'être obligé de conduire en fermant un œil pour pas voir double. Bref, je suis prudent. Ah ouais, ah bien sûr, je fume. Ah ouais, ça c'est un facteur de risque. Mais bon, hein, le risque zéro, ça n'existe pas. Hein. On me le répète assez à propos du terrorisme. Alors, franchement, autant crever la cigarette aux lèvres que déchiqueté dans l'explosion de la bombe d'un fanatique qui rêve de se taper des vierges par paquet de 12, alors que c'est si agréable de faire l'amour à la femme qu'on aime en ce bas monde. Et puis merde, c'est aussi bien de crever à 70 balais d'un chou-fleur du poumon que survivre 20 ans à un Parkinson. Et puis, il faut bien crever de quelque chose. Alors, chacun sa manière. Oh, bien sûr, si je pouvais choisir, je ferais comme tout le monde. Je choisirais le lit. J'adorerais mourir de la petite mort. Mais j'ai des scrupules. J'ai peur que ça traumatise ma partenaire. Dommage, hein, parce que se suicider à coups de branlette, c'est moins agréable comme perspective. Enfin bon, je verrai ça en temps utile. J'en suis pas encore là. En tout cas, j'espère qu'après cet exposé, votre morale est remontée et je vous souhaite à tous un très très joyeux hiver. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques textes vous ont fait rire, vous ont fait rêver, vous ont plu tout simplement. Pour l'instant, je vais dire au revoir à Stéphane qui toutouillait les boutons derrière la vitre. Et moi, comme j'ai l'habitude, je vais vous dire à vous, à la prochaine fois, même endroit, même heure.